des livres plein les oreilles. Salut tout le monde, Clotilde Sey au micro de Canal M pour vous présenter cette nouvelle émission des livres plein les oreilles qui, comme vous le savez, est consacrée aux livres audio. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un gars qui voulait faire de l'humour. L'humour, ça a toujours été son truc et il a fait de l'humour. C'est un gars qui se prenait très au sérieux au début, qui s'est vite monté la tête, qui s'est aussi monté sur un piédestal. Un gars qui n'a jamais rien fait à moitié. Quand il aimait trop. Et quand il a consommé, eh bien, il consommait trop. Et quand il emmerdait le peuple, il l'emmerdait trop. Si autrement dit, ce gars-là était un... Comment je vais vous dire ça ? Un excessif, tiens, voilà, un trop, un pas beige et un pas bête non plus. Alors quand il a pris sa débarque, eh bien, il l'a prise en grand et il raconte tout ça dans un bouquin qui ne pouvait s'appeler autrement que « excessif » avec le « ex » en gras comme pour « excessif ». Quand je disais qu'il n'est pas con, il n'est pas con. Et c'est lui qui a voulu également lire la version à haute voix qui existe maintenant à notre catalogue livreaudio.vusevoix.com, bien évidemment. Alors oui, je reçois Maxime Martin à cette émission, à laquelle nous évoquerons aussi Arthur Conan Doyle, H.G. Wells, le Festival du livre audio de Strasbourg, et nous irons voir si les livres de poche les plus vendus en 2020 existent en version sonore. Parlant de sonore, c'est parti en musique avec quelque chose que l'ami Maxime connaît bien, je pense.
To our thoughts, with illusions of someday, cast in a golden light, no dress rehearsal, this is our life.
Salut Max, Maxime Martin, bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, oui. Ça doit te rappeler un peu des souvenirs. C'est un groupe dont tu avais dit le plus grand bien à un moment donné dans un papier. Ouais, Tragically Hip, c'est ça?
Tragically Hip, exactement. C'est un band qui m'a normalement... Ce que j'ai toujours adoré de ce band-là, c'est que à première écoute, tu ne tombais pas forcément immédiatement. C'est jamais le coup de foudre comme d'autres albums, ouais. Mais plus tu l'écoutais, plus tu comprenais le sens, plus la musique... Mais c'est toujours ce que j'adorais de Tragically Hip. Puis tu vois, pendant que tu vois cette chanson-là, je me voyais à quoi je dois avoir 22, 23 ans dans un petit 2,5 sur la rue Saint-Mathieu, en plein centre-ville de Montréal, en train d'écrire des gags. sur mon carnet du Motang à l'époque. Moi, je suis un des derniers qui écrivait encore sur le papier. J'ai essayé ça l'ordinateur à l'époque. Puis avec mon petit Walkman, Discman, en fait, on était rendu au Discman. Il écoutait ça. Non, regarde, c'est ouais. Tout ce que j'ai dit de Tragically Hip.
Maxime, écoute, ce livre excessif, d'ailleurs, tu l'écris à un moment donné dans le bouquin, ce n'est pas une bio. C'est un véritable témoignage. Tu y tiens à ça, hein?
Oui, parce que si j'avais écrit une bio, je l'aurais écrit différemment. Je veux dire, c'est il y a des trucs qui me sont arrivés qui auraient été inclus dans le livre. C'était vraiment juste plus la démarche.
Bien sûr.
Ouais, c'est
alors, parlons-en de la démarche dont tu parles. Je me disais en préambule que quand tu aimais fort. L'humour, c'est pas de l'amour, c'est de la passion. Et quand tu as consommé, tu as aussi consommé très, très fort. Et il y a voilà.
Hein? Non, puis tu vois, puis ça reste pareil aujourd'hui. Tu sais, même si ma vie est rangée, lorsque vient le temps de faire du sport, tu sais, ça m'a pris une intervention de ma psy puis de mon médecin qui me dit, veux-tu relaxer un peu, fais juste trop, le corps va pas suivre à un moment donné.
D'ailleurs, je me disais, Max, est-ce que tu mets autant d'énergie à ne plus consommer que ce que tu en as mis à consommer?
Est-ce
que ça prend beaucoup d'énergie?
De poser la question, parce que tu sais, il y a une évolution derrière tout ça.
Ouais.
Tu sais, les premiers jours, semaines, mois, même année, c'est un véritable Vietnam. Tu sais, puis c'est jamais un parcours parfait. Tu sais, je veux dire, les premiers temps, tu t'en fanges évidemment. Tu sais, fait que. Mais une fois que tu prends le contrôle de cette allée-là, tu vois tout de suite les bienfaits.
Donc,
ça pèse, mais.
Bien sûr.
C'est aussi. C'est de la seconde que tu baisses tes gardes, c'est là que le danger arrive. Et ta perception aussi de la consommation change aussi, de ce que tu as vécu. Il y a une évolution dans ça. Ouais. Pas, et tu le vois d'année en année, puis tu vois les bienfaits, puis tu vois aussi, comme j'ai dit, c'est la perception des choses qui va changer.
Tu sais, Max, je commence souvent le début de l'entrevue par la fin. Et toi, la fin, donc mon début, je l'ai trouvé dans la fin de ton livre, en page 265, ce paragraphe où tu écris « Rien qu'à écrire ces lignes, donc ce livre, ce témoignage, je ressens encore le mal physique que je ressentais ces jours-là et une seule chose me vient en tête, qu'est-ce qui me poussait à me faire autant de mal? Qu'est-ce que je détestais de ma vie et de l'homme que j'étais pour m'imposer un châtiment aussi sévère? » Est-ce que tu as une réponse à toutes ces questions-là?
Oui. Mais tu sais, en même temps, ma réponse est semblable à bien des gens et forcément à beaucoup de ceux qui nous écoutent. T'sais. Je veux dire, l'amour de soi-même, c'est quelque chose que tu dois travailler. Surtout qu'on vit dans un monde et dans une société, surtout la société québécoise, où moindrement avoir confiance est vite comparé à avoir un ego démesuré. Moi, je sais que j'ai vécu quand j'ai repris le contrôle de ma vie, puis qu'il a commencé à avoir des belles choses qui m'arrivent, le retour à la radio, puis les plus belles tournées que de faire des shows dans les bars, puis les projets avec ma fille, puis parce que j'avais le sourire au visage, parce que j'étais un peu partout, là, d'un coup, j'étais rendu prétentieux. Ah, OK, on m'aimait mieux quand j'étais malheureux, puis que... Tu comprends?
C'est
un peu dur à jongler. Mais aussi le fait que le travail de soi-même, c'est un travail à long terme. La fameuse expression « la vie, c'est un marathon », elle est vraie.
Oui.
Et, sauf que donc, quand ça va mal et que tu trouves un médicament rapide qui ne veut pas le prendre, t'sais, vraiment, la beauté de la coke, c'est vraiment « ma vie, c'est de la merde. Je suis un esti de loser. » Et tout d'un coup, une sniffette plus tard, c'est instantané comment ça change ta perception. Enfin, pourquoi
tu l'écris d'ailleurs, parce qu'on assiste à ta première gorgée. Parce que dans les bars, il y a de l'alcool partout. Et puis, comme tu as débuté dans ces comédie clubs-là, entre autres dans l'Ouest, évidemment, la bière arrive très vite dans la main, une fois, deux fois, et puis tout le temps. On assiste
Ça coûte jamais très cher.
Non, c'est ça en plus. Aussi, Ensuite, on assiste à ta première pof de pote et puis on assiste à ta première sniff de coke. Ouais. Et tu l'écris d'ailleurs, tu te dis que waouh, tout d'un coup. Est-ce que c'est ça qui fait dire aux personnes toxicomanes que quelque part, l'alcool et la drogue leur a sauvé la vie?
Ben, tu sais, parce que quand tu commences ton cheminement de nettoyer ta vie, tu as tendance à te taper sur la tête, puis à te voir justement comme ce fameux loser-là qui était pas assez fort pour dire non, puis tu sais, cette méchante drogue, puis cette méchante alcool, puis méchante cigarette. Puis... Et la première chose qu'on t'apprend, c'est de les voir comme un ami, c'est des amis qui ont été là quand on avait besoin. Mm-hmm. Je veux dire, tu sais, cette souffrance-là infligée, elle vient de quelque part. Tu sais, je veux dire, il y a des gens pour qui le bonheur est facile, il y en a d'autres mm-hmm. qu'il faut qu'ils travaillent constamment. Tu sais. Et je l'ai toujours dit, tu sais, être heureux, c'est difficile. Être malheureux, c'est l'affaire la plus facile au monde. Tu sais, fait qu'on peut tous s'enfarger dans une situation de merde hyper rapidement. Tu sais, je veux dire, maintenir mon bonheur, maintenir la carrière que j'ai reconstruite présentement avec le succès à la radio, comme j'ai dit. Puis, tu sais, avant le confinement, c'était la plus belle tournée que j'avais jamais eue. Ça prend beaucoup plus d'efforts. Si je voulais rechuter puis je voulais tout détruire, ça me prendrait une semaine. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, absolument.
Et c'est ça qui est essoufflant des fois. C'est, oui, le bonheur peut être essoufflant, puis c'est là que tu apprends à dire non des trucs. C'est là que tu apprends à pas te protéger dans le sens de t'éloigner des situations dangereuses, mais de pas ignorer quand tu es fatigué, puis de prendre du temps pour toi. Puis ces moments-là, tu sais.
Est-ce que tu l'as entendu, le livre? Parce que je précise que c'est toi qui as tenu à l'enregistrer, et pour cause, parce qu'il est créé, il est écrit vraiment comme un long monologue, et ça pouvait pas être un autre que toi qui
mais
le lise.
Mais tu sais que ça passait proche d'être quelqu'un d'autre.
Ah ouais?
Parce que moi, tu vois, ça faisait... Non, je l'ai pas écouté, puis je te confirme que ça arrivera pas non plus.
Oups!
Quelle bonne façon de vendre son propre livre!
Ouais, non, mais là, dis donc, Max, là, tu me mets un petit peu dans la mouise, parce que j'ai un extrait.
Ah ben, vas-y, tu peux jouer un extrait. Un extrait, c'est différent de
j'en ai deux, même. Okay. Allez, écoute, on commence par un. C'est l'époque de tes débuts, c'est la folie, c'est la découverte de l'humour, c'est la découverte d'être sur une scène et d'entendre ces gens qui t'applaudissent. Mais au départ, c'est un peu un boulot, un simple boulot, une petite annonce qui va finalement te mettre entre guillemets sur la carte. On écoute l'extrait.
Chaque soir, une fois que le monde était bien installé, je regardais avec envie et admiration les humoristes sur scène. La même question me venait qu'à l'époque où j'étais gamin. Comment font-ils pour faire rire ces gens avec autant de facilité? Les jours où je travaillais, je devais arriver assez tôt pour placer les chaises et passer l'aspirateur dans le club. Je me souviens bien d'être souvent monté sur la scène avant que quelqu'un arrive. C'était un petit stage de 4 pieds par 8 qui faisait pas plus que 2 pieds de haut. Et même devant des chaises vides, ça me paraissait comme le sommet du monde. Soir après soir, j'achalais le gérant pour me donner une chance. C'était quand même assez audacieux que j'avais aucun gag d'écrit. Et puis, le lundi 13 février 1989, à 2h de l'après-midi, j'ai reçu un appel. Un des animateurs était en show à l'extérieur de la ville, puis l'autre avait demandé plus d'argent, sinon il se présentait pas. Le gérant m'offrait donc ma chance de faire mes preuves. Hey, j'ai rassemblé les bouts de papier sur lesquels j'avais écrit des ébauches de gags. Et je me souviens qu'il a même fallu que je déplie des napkins froissés sur lesquels j'avais noté des idées. J'avais exactement 6 heures pour préparer un 10 minutes puis l'apprendre par cœur. C'est complètement ridicule. Pas besoin de vous dire que comme tout bon dépucelage, mon premier set a été tout sauf bon. Et je me suis même fait huer 2 fois.
Es-tu encore là, Maxime?
Oui.
Puis, c'est pas pire, hein?
Oui, ben c'est juste... En fait, c'est drôle parce que... tu sais, je veux dire, j'ai... Tu sais, le livre quoi, date quand même de il y a presque 6 ans, je crois.
Ben oui.
Et j'ai quand même écrit assez rapidement. Ça a été 2 blocs d'écriture de 3 mois. Ça a été genre avril, mai, juin. J'avais pris l'été de congé, juillet, août. Et j'avais recommencé en septembre, fini novembre, les corrections, allons-y, go. Et je suis content d'avoir fait de cette façon parce que je l'ai fait sans avoir énormément de recul. Donc, j'ai pas... Puis à un moment donné, tu le sais comme moi, tu reçois les corrections, les suggestions de coups, ça devient technique plus que ton histoire, donc. Et donc, c'est sorti, ça a été quand même un succès dont je suis très fier. Et souvent, les gens me disaient, est-ce que tu as déjà lu ton livre? Puis même des fois, tu veux dire, T'sais, par moment, des fois, je vais retourner me consulter. Je vais aller soit au CRDM. J'ai un ami qui travaille à la maison Jean-Lapointe. Ouais. Fait que dans des moments plus difficiles. Puis je me souviens que récemment, il y a peut-être un an où ce que c'était comme ça, puis on me disait, tu devrais relire ton livre. Je fais, non, j'ai aucune envie. Je la connais, mon histoire. J'ai pas envie de la relire. Il y avait cette espèce de libération de l'avoir partagée. Il y a cette extrême fierté de savoir qu'elle a aidé énormément de gens. Mais c'est ça. C'est sans nier cette partie-là de ma vie. À un moment donné, c'est le fun de tourner la page aussi.
Ouais.
Et donc, moi, ça faisait 6 mois qu'on me demandait de faire la version
audio.
Et au début, c'était non, j'ai aucune envie. Je retardais de répondre au courriel.
Est-ce que ça te faisait peur? Est-ce que ça te faisait...
Non.
Est-ce que tu avais de la crainte de revenir? Parce qu'à un moment donné, tu en parles, ça te fait mal au moment où tu écris ce livre et que tu te relis et que tu vois notamment toutes les chances que les gens t'ont données. Ça te fait mal de voir que tu les as pas saisies, quoi.
Ben, oui, puis non, mais dans le sens que c'est aussi... Parce que suite à la sortie du livre, c'est normal qu'on en parle aujourd'hui parce que la version audio est sortie, puis justement, moi-même, je vais en parler bientôt, mais c'est que quand le livre est sorti, et j'étais en pleine tournée, c'est que tout d'un coup, on ne parlait plus non plus de l'humoriste.
Ah, mais...
Donc, chaque entrevue était autour du livre, de la consommation. Puis même les gens, à un moment donné, moi, je trouvais ça redondant, puis j'étais le premier à dire en entrevue, OK, on change de sujet, c'est fait.
Ouais.
On dirait que, j'ai fait énormément de conférences aussi suite à Excessif, qui, encore une fois, ont aidé beaucoup de gens, puis encore une fois, un grand moment de fierté. Mais je me souviens que les dernières conférences, j'y allais reculons parce que comme je commençais à être tanné de vie. C'est comme, OK, c'est correct.
Ouais.
Je l'ai analysé, je l'ai confronté en thérapie, et comme j'ai dit, je pensais faire l'autruche, au contraire, j'ai tout raconté. Et là, quand on a commencé, quand j'ai finalement accepté, parce que dans ma tête, ça devenait aussi inconcevable que quelqu'un d'autre.
Le lise, oui.
Je voyais pas que Dinadon racontait mon histoire. et donc, Dinadon, que j'aime d'amour, mais tu sais, je veux dire, ça aurait été même un honneur, mais ça n'avait juste pas de bon sens. Quand, et donc, go, on a embarqué dans le projet. Bien c'était sûr. Là la première journée aussi.
Ben oui. Oui, et je t'ai vu ému parfois. Je t'ai vu, oups, parfois, ça, forcément, ça fait
ben,
remonter.
Clairement.
Ben oui, clairement, c'est sûr.
Ben, je me doutais.
Oui.
Puis pas à ce point-là. Il y a des moments où, parce qu'on a fait ça en tout en 6 séances à peu près, ça tout inclut les corrections. Mais 6 séances vraiment de lecture. Souvent, quand je sortais de la lecture, j'appelais ma fille, j'appelais des amis, j'appelais des gens, parce que je disais, « Wow, merci d'avoir été là » ou « Je m'excuse d'avoir fait subir ça. Hey, ça m'a fait penser à tel moment. » Oui, je suis énormément content de l'avoir fait. C'était... Puis honnêtement, probablement que dans peut-être 4-5 ans, encore une fois, je vais prendre le temps de le relire.
Oui,
parce que puis même souvent, on m'a demandé aussi d'écrire la suite, de dire « Bon, parce que comme j'ai dit, je parle d'une période qui est quand même arrivée. Même si le seul livre est sorti il y a 6 ans, le livre s'arrête à peu près, il y a quoi, il y a 8-10 ans, c'est quand
même.
Oui,
ben oui. Dis-moi, Livia, elle a quel âge alors?
Livia, présentement, elle a 20 ans. Elle va avoir 20 ans.
Moi, wow!
Ouais. Donc, elle refuse toujours de le lire, mais quoi que là...
C'est vrai?
Là, parce qu'on a fait... Ben oui, mais en fait, on a animé un talk show pendant le festival Juste pour rire. Et à la gag, ce qu'on faisait... Les scripteurs du show lui sortaient des extraits du livre.
Uh-huh.
Et elle voyait ma réaction pendant le jardin. Fait que ça a comme un peu piqué sa curiosité. Et en même temps, elle a aussi l'argument de est-ce que je veux vraiment tout savoir. En tout cas, on a discuté avec elle à un moment donné, là, mais bon. Mais donc, et puis pendant longtemps, j'ai pensé écrire la suite. Puis après ça, j'ai fait, moi. Comme là, présentement, oui, j'ai d'autres projets de livre.
Uh-huh.
Puis je vais aller ailleurs, tu sais, mais.
Bien sûr. Okay.
Et en même temps.
Bon. Allez.
Mais pour dire que oui, je suis
Max,
content d'avoir visité cette ville-là.
Maxime Martin, je vais te faire souffrir encore un peu. On va écouter un deuxième extrait. Okay. Et le tout début de ce deuxième extrait, je dirais que c'est... je vais le dire en franco-québécois, c'est le début de la marde.
Okay.
Mais, à travers tout ça, j'ai aussi appris à boire. C'était le prix d'entrée pour accéder à leur monde. À l'époque, mon plan de carrière était somme toute assez simple. J'étais un Québécois capable de se fondre dans le décor anglo-canadien et j'étais totalement influencé par la culture américaine. Donc, en toute logique, je passerais des comedy clubs de Winnipeg à ceux de Minneapolis, puis ensuite, je passerais de la scène de Minneapolis à celle de Chicago, et de Chicago, je mettrais le cap sur New York, la mecque des comedy clubs. Simple comme ça. Rapidement, je me suis monté sur scène 6 jours sur 7. Je commençais déjà à me sentir un peu star. On me reconnaissait de plus en plus souvent aux quatre coins de Winnipeg, et tout d'un coup, c'était devenu un peu plus facile d'avoir le numéro de téléphone d'une fille. Tout pour alimenter l'ego du petit cul de 19 ans que j'étais. Alors que mes chums travaillaient dans une épicerie ou une station de service, moi, je gagnais ma vie à faire rire le monde. Modestement, faut dire, mais bien assez pour que ce soit ma seule job.
Et ne l'oublions pas, au milieu de tout ça, et tu nous le rappelles tellement souvent dans ce bouquin, l'humour, depuis tout petit, quoi, je veux dire, ça t'a toujours tenu. Bon, c'est vrai qu'on entend souvent ça, j'étais le clown de la classe, parce qu'il faut bien que ça parte de quelque part. Mais parlons un petit peu quand même de cet humour-là. T'en as bavé, parce que du coup, la surconsommation a fait en sorte qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui voulait travailler avec toi, et tout le monde s'en apercevait, sauf toi finalement, alors que tout le monde te disait que tu avais un talent fou, et tu nous l'as prouvé, évidemment.
Ben, en fait, ça a été une des choses avec lesquelles ça a été le plus difficile de faire la paix quand la tempête s'est arrêtée. C'est que, je m'en voulais d'avoir sacrifié un talent qu'on m'avait donné.
Ah oui.
Pas sacrifié, mais d'avoir pris pour acquis ou, j'ai pas été reconnaissant. T'sais, honnêtement, si je regarde, si j'avais la tête que j'ai aujourd'hui à travers toute cette carrière-là, puis je sais que ça te fait prétentieux ce que je veux dire, mais la preuve est à l'appui, comme tu as dit. T'sais. Le succès que j'ai eu en France aurait duré parce que j'aurais justement été prêt à l'affronter d'une façon sobre.
Oui.
Même chose en anglais, Dieu sait ce qui serait arrivé ici. Quoi qu'en même temps, bon, c'est un long débat, c'est aussi l'humour que je faisais était quand même assez différent des autres, parce qu'ici au Québec, quand j'ai commencé, c'était évidemment pas frileux, mais quand même un peu. Il n'y avait pas beaucoup de Maxime Martin, il y avait pas mal plus des gens qui parlaient du quotidien de la vie. Mais oui, donc il a fallu que je fasse la paix avec. Et d'ailleurs, mais en même temps, ça a été la motivation, tu sais.
Mm.
Parce que je me disais que ça allait être impossible que cette carrière-là se termine de cette façon. Tu sais, moi, j'ai encore l'image, comme j'ai souvent dit. Je me souviens à Rimouski d'être dans un resto avant d'aller faire mon show, dans un bar. Mm. Le show commençait à 10h, donc devant du monde qui était déjà sous-pigé. Et pendant que je mange, j'ai le poster de Mario Jean, qui est un de mes bons chums, qui lui est en face. Au théâtre, puis avoir des billets avec un spectacle. Fait, ça m'a toujours marqué ces choses-là, puis ça a été en même temps aussi la motivation, comme je le répète. Et donc...
Bon, aujourd'hui, Maxime, tu es donc animateur reconnu à la radio, tu es toujours aussi humoriste, mais après toutes ces années, est-ce qu'on te reconnaît maintenant et exclusivement que comme ça, ou comme le gars qui a déjà trop pris un coup?
Non, là maintenant, non, au contraire, l'image est positive. Tu sais, c'est justement, c'est le fun d'être rendu d'être un exemple de quelqu'un qui était ne pas quoi faire. Ah, voici comment t'en sortir.
Ouais.
Et puis pas juste. Puis indépendamment de la consommation, c'est aussi ah ok, dans ce moment, il s'est repris en main. On regarde les exploits sportifs que tu sais. Je veux dire, je suis parti d'un gars qui allait au gym, qui faisait du chest bras, comme on dit, à faire un full Ironman. Tu sais, j'ai commencé à faire des remplacements à radio pour être maintenant avec le retour numéro un.
Wow,
tu sais, j'ai écrit 5 ans dans le Journal de Montréal, mais la série avec ma fille. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est maintenant. En fait, c'est drôle, c'est souvent les gens qui me font remarquer même le succès que j'ai. Parce que c'est pas que je suis plus superstitieux, je veux pas le prendre pour acquis. Je fais attention, tu comprends?
Bien sûr.
Un jour, quand je serai à la retraite au chalet, puis que je me bercerai devant la fenêtre, là, je penserai à tout ce que j'ai fait. Mais pour l'instant, il y a encore trop de choses dans cette tête-là à réaliser, puis à un moment donné, j'apprécie le succès.
Et une des fiertés que tu as, c'est de pouvoir être l'exemple, mais que tu voulais être d'ailleurs dans le livre, tu t'adresses directement à la personne, ou à nous tous en disant « vous
»,
ou même carrément à la fin du livre, tu dis « tu ». Autrement dit...
Ben, c'est souvent très « tu » parce que je veux que la personne qui tu lis se sente interpellée, que ce soit pas genre un groupe...
Et qu'elle aille chercher de l'aide parce que ça reste le secret. Hein?
C'est clair. C'est clair. Oui, c'est pas... J'ai essayé de faire assez longtemps, puis la plupart des gens... Souvent, quand les gens m'écrivent encore aujourd'hui « comment t'as fait » ou « aide-moi, t'as-tu un conseil », la première chose que je dis, va chercher de l'aide. Il y a des gens qui sont qualifiés pour t'aider. Pourquoi te faire chier à trébucher pour rien quand c'est pas nécessaire?
Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi-même de prendre la main de quelqu'un, comme on l'a fait pour toi quasiment, puis lui dire tiens, tu sais, comme l'a fait par exemple ce type là, Frédéric?
Ben, oui, en fait, pas des amis, ben, certains amis proches, oui. Les étrangers, c'est différent parce que souvent je les dirige vers le CRDM, qui est le centre moi qui m'a aidé.
CRDM pour
Centre de réadaptation de la dépendance de Montréal.
D'accord. OK.
Et parce qu'encore une fois, c'est souvent les gens me demandent sur des parrainés de parler à leurs enfants, de parler à leurs blondes, leurs chums. Je garde une certaine distance parce que je sais comment m'occuper de Maxime Martin. Ça, je suis pas pire. Mais c'est le seul. Ma formation s'arrête à Maxime Martin. Mais ma compétence s'arrête à Maxime Martin. Mm-hmm. Parce que des fois, Joe Capar, je voudrais pas dire quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je comprends.
C'est important de garder une distance parce que je veux pas devenir ce point de repère-là.
Non.
Où t'es la motivation, ou je sais-tu si je dis la bonne chose? Parce que justement, j'ai pas cette formation-là.
Mais dès l'instant qu'on est vrai et authentique, Maxime, on dit toujours la même chose. Et c'est ce qu'on ressent dans ton bouquin. C'est qu'il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre dans le sens « Oh non, ça, j'aurais peut-être pas dû le dire. » Non, non. Je vais aller jusque-là parce que tu vas loin quand même.
C'est la seule façon d'écrire un bouquin de même. Tu peux pas la monter.
Non, je le sais, mais tu sais, il pourrait y avoir un petit peu de pudeur. Bon, mais peut-être à pas raconter ça. Écoute, quand tu racontes que tu es tellement coquet qu'il faut que tu t'arraches les croûtes dans le nez pour que ça repasse, c'est quelque chose, comme tu le dis d'ailleurs, il faut-tu avoir envie. D'ailleurs, tu écris, tiens, cette phrase, c'est fou le nombre de claques sur la gueule un toxicomane est capable d'encaisser avant d'allumer.
On est d'excellents boxeurs, ça prend énormément de temps à compter au bout de la pile.
En tout cas, moi, Maxime, j'ai fait une belle rencontre en te croisant ici, en t'aidant du mieux que j'ai pu dans ce travail.
Je te remercie énormément d'ailleurs pour ça.
De rien. Mais je suis contente du résultat, mais je savais que le résultat serait bon parce que, surtout qu'à un moment donné, tu m'as dit, tu sais, tu pourras pas me changer, c'est moi. Puis après, quand j'ai lu au fur et à mesure ton écriture, j'ai dit, bah oui, il a raison. On peut juste parfois lui dire, oups, là, j'ai pas bien compris ce mot-là, mais c'est tout.
Ouais.
Il fallait que sinon, ce soit toi. Et t'as bien fait ça. Et il y avait quelques tabarnaks bien sentis, mais qui étaient à la bonne place. Et bravo, Maxime. Bravo pour l'ensemble de l'œuvre. Bravo à l'humoriste. Et puis, bravo à tout ce que t'as fait. Puis, merci pour ce bouquin, parce qu'il y a des gens que tu vas inspirer, longtemps, même si tu les connais pas.
Ben écoute, ça me touche énormément ce que tu me dis, puis oui, à toi encore aujourd'hui, je reçois régulièrement des merci, puis ça me rappelle aussi, mon cheminement, ça me rappelle aussi d'être fier, puis de rien prendre pour acquis.
Salut Maxime Martin. Alors, Excessif, c'est le titre du livre, c'est en livre audio, à livreaudio.vusezvoix.com. Salut. Des livres plein les oreilles, la suite. En seconde partie de cette émission, des livres plein les oreilles, que vous captez peut-être via CKVL, via Canal M ou encore via en podcast, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, cette seconde partie de cette émission sera composée d'actualités et de trouvailles dans le domaine du livre audio, toujours. Et il va y avoir de grosses pointures. Figurez-vous qu'on a retrouvé un nouveau manuscrit de Arthur Conan Doyle, peuplé de dinosaures. On a également l'Angleterre qui rend hommage à H.G. Wells avec une pièce de deux livres qui ne fait pas l'unanimité. Ça, c'est pour l'actualité, qui vous donnera l'occasion d'ailleurs d'aller jeter une oreille sur ce que le livre audio a à nous offrir de ces deux monstres sacrés littéraires. Et puis aussi, on ira voir ce qui se prépare au futur festival du livre audio de Strasbourg, Covid ou non. Et enfin, j'ai vu passer un papier au sujet des meilleures ventes de livres de poche en 2020. Je me suis dit qu'il devait donc exister en audio. Je n'avais pas complètement tort, mais je n'avais pas non plus complètement raison. Si je vous amène sur un plateau le thème de Sherlock Holmes, sorti en 2009, le film sorti en 2009 avec la musique de Hans Zimmer, c'est évidemment parce que nous allons parler d'Arthur Conan Doyle. On est dans actualité.com. Nicolas Gary nous révèle qu'Arthur Conan Doyle avait rédigé un manuscrit qu'on a enrichi d'une série de 21 gravures d'un artiste qui s'appelle Géo Dupuis et qui ont été réalisées pour la première édition française de ce roman qui s'appelle Un monde perdu, voilà, Un monde perdu, qui est paru en 1913. Et comme à leur habitude, nous dit Nicolas Gary, les éditions des Saint-Père proposent de découvrir cet ouvrage originel et manuscrit avec les annotations, les ratures de l'écrivain. En somme toute, il y a toutes les corrections sont là, apportées avant d'établir la version finale. Vous pouvez voir cela. Nous sommes en 1910, Conan Doyle a déjà cette belle réussite qu'on lui connaît grâce à Sherlock Holmes, son détective de Baker Street. Ça fait déjà près d'une trentaine d'années que ses aventures fascinent, enchantent et émerveillent, mais il a le goût d'une expérience littéraire qui serait à mi-chemin entre le récit d'aventure et la science-fiction. À l'automne 1911, le début de l'intrigue est esquissé. Il va s'agir d'une expédition scientifique dans les tréfonds de la forêt amazonienne où vivent des créatures surgies de la préhistoire ou tout comme. Notons qu'au moment de ses travaux préparatoires, écrit toujours Nicolas Gary, le terme même de dinosaure a une certaine actualité. Il n'est apparu qu'en 1841. Bon, officiellement. Alors Doyle écrit les 292 pages du Monde perdu en quelques mois à peine au Widdlesham Manor, qui était sa demeure de Crownborough, dans le Sussex de l'Est, en Angleterre. Le manuscrit est achevé dès le 3 décembre 1911 et c'est un document, alors je vous le disais, recouvert de l'écriture soignée et régulière de Conan Doyle, qui est aujourd'hui conservé au sein de la Berg Collection à la New York Public Library, grâce à laquelle il est reproduit dans cet ouvrage, indique les Saint-Pères eux-mêmes, toujours aussi pieux en matière de numérisation, dit M. Gary. Évidemment, ce nouveau texte-là, Un monde perdu, peuplé de dinosaures, ne se retrouve pas en livre audio, comme vous pouvez l'imaginer. En plus, il a été, c'est vraiment une édition spéciale, seulement à peu près 1000 copies qui sont parues en Europe. C'est un tirage qui se vend quand même à 180 €. Par livre, ouais. J'ai pour vous par contre un extrait de 12 nouvelles enquêtes de Sherlock Holmes et du Dr Watson. C'est une étiquette aux éditions du Savoir, lue par Nicolas Planchet. On va retrouver ce bon vieux Dr Watson et Sherlock en personne.
Un soir, c'était le 20 mars 1888, j'avais visité un malade et je rentrais chez moi, car je m'étais remis à la médecine civile, lorsque mon chemin me fit passer par Baker Street. Devant cette porte dont je n'avais pas perdu le souvenir et qui sera toujours associée dans mon esprit au prélude de mon mariage comme aux sombres circonstances de l'étude en rouge, je fus empoigné par le désir de revoir Holmes et de savoir à quoi il employait ses facultés extraordinaires. Il ne me prodigua pas d'effusion. Les effusions n'étaient pas son fort, mais il fut content, je crois, de me voir. À peine me dit-il un mot, toutefois son regard bienveillant m'indiqua un fauteuil. Il me tendit un étui à cigare, son doigt me désigna une cave à liqueur et une bouteille d'eau gazeuse dans un coin. Puis il se tint debout devant le feu et me contempla de haut en bas de cette manière pénétrante qui n'appartenait qu'à lui.
« Le mariage vous réussit, » observa-t-il. « Ma parole, Watson, vous avez pris 7,5 livres depuis que je vous ai vu. »«
7, » répondis-je.
« Quelle voix, 7, » répondis-je. « Quelle grave, waouh !» Je vais vous rappeler la voix de ce narrateur, si je le retrouve quelque part, je l'avais noté, voilà, Nicolas Planchet. Puisqu'on est dans les actualités, restons-y. L'Angleterre, figurez-vous, a rendu hommage à H.G. Wells avec une pièce de 2 livres. Malheureusement, une pièce qui ne fait pas l'unanimité. Pourquoi ? Parce qu'elle est, semble-t-il, remplie d'erreurs. C'est Gary Epi Raphaël qui écrit cela dans actualité.com également et qui nous dit que rendre hommage à un auteur aussi foisonnant que Wells sur un bout de métal de quelques centimètres, c'est vrai que ça représente un véritable défi. Pour célébrer les 75 ans de sa mort, c'est une gravure comportant des images inspirées de deux de ses ouvrages les plus célèbres, soit « La guerre du monde »,« La guerre des mondes », pardon, et « L'homme invisible » qui a été choisi. Mais, ouais, malheureusement, il y a plusieurs voix qui se sont élevées critiquant le rendu final. L'artiste Holly Humphries n'a ainsi pu s'empêcher de remarquer que le design des machines style alien s'éloignait quelque peu de la vision originale de l'auteur. En tant que personne qui aime particulièrement l'une de ces trois célèbres histoires, puis-je simplement noter que la grande machine sur la pièce à quatre pattes, à quatre pattes, s'insurge-t-elle, rappelant que l'auteur est célèbre pour avoir créé le tripode martien. Ah ah ! Comment a-t-on pu faire cette erreur ? S'insurge cette Madame Humphries. Eh bien, pour Stephen Baxter, le vice-président de la Wells Society, ce n'est pas tant le nombre de pattes que leur aspect rigide qui dérange. Mon Dieu, c'est un festival que je vous fais aujourd'hui. Et enfin, le romancier Adam Roberts, auteur entre autres d'une biographie sur Wells, donc il sait quand même de quoi il parle, le monsieur, eh bien, il pointe le fait que l'homme invisible est décrit comme arborant un chapeau à large bord. Or, le très discret héros est coiffé sur la pièce d'un chapeau haute forme. Non mais quand même, comment a-t-on pu... Scandale. C'est quand même... Comment a-t-on pu laisser passer ça? Bon, allez, trêve de plaisanterie. J'ai pour vous La guerre des mondes. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais pour Conan Doyle, et c'est vrai aussi, je pense, pour Wells, tout ça est libre de droit maintenant. Hein, donc, ce sont des livres audio qui existent un petit peu partout. Si vous faites le titre... La guerre des mondes, vous allez en retrouver plein qui sont lus. J'en ai choisi pour vous trois extraits de La guerre des mondes, parmi les plus récents. Alors, on va écouter ça, trois voix d'hommes différentes, et je vous dirai après qui a lu quoi.
Personne n'aurait cru dans les dernières années du 19e siècle que les choses humaines fussent observées de la façon la plus pénétrante et la plus attentive par des intelligences supérieures aux intelligences humaines et cependant mortelles comme elles. Que tandis que les hommes s'absorbaient dans leurs occupations, ils étaient examinés et étudiés d'aussi près peut-être qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures transitoires qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de ci, de là par le monde, vaquant à leurs petites affaires dans la sereine sécurité de leur empire sur la matière.
Ces conditions physiques sont encore largement un mystère. Mais dès maintenant, nous savons que, même dans sa région équatoriale, la température de midi atteint à peine celle de nos plus froids hivers. Son atmosphère est plus atténuée que la nôtre. Ses océans se sont resserrés jusqu'à ne plus couvrir qu'un tiers de sa surface. Et suivant le cours de ces lentes saisons, de vastes amas de glace et de neige s'amoncellent et fondent à chacun de ses pôles, inondant périodiquement ses zones tempérées. Ce suprême état d'épuisement, qui est encore pour nous incroyablement lointain, est devenu pour les habitants de Mars un problème vital. La pression immédiate de la nécessité a stimulé leurs intelligences, développé leurs facultés et endurci leur cœur.
Regardant à travers l'espace avec des instruments et des intelligences telles que nous pouvons à peine les rêver, ils voient à sa plus proche distance, à 55 millions de kilomètres d'eux vers le Soleil, un matinal astre d'espoir, notre propre planète, plus chaude, aux végétations vertes et aux eaux grises, avec une atmosphère nuageuse éloquente de fertilité. Et à travers les déchirures de ces nuages, des aperçus de vastes contrées populeuses et de mers étroites sillonnées de navires. Nous, les hommes, créatures qui habitons cette terre, nous devons être, pour eux du moins, aussi étrangers et misérables que le sont pour nous les singes et les lémuriens.
Voilà trois extraits de La Guerre des mondes en livre audio. Le premier extrait a été lu par Bernard Petit. C'est le livre qui parle, qui avait produit ça en 2017. L'extrait numéro 2, c'était la voix de Frédéric Chevaux, comme des chevaux. C'était sorti en mars 2020, une collection que je ne connais pas et dont je n'ai pas réussi à voir le nom là où je l'ai trouvé. Et l'extrait numéro 3 est lu par Benjamin Jungers aux productions, une production Lizzy, et c'était paru, alors ça c'est tout récent, en octobre 2020. Le livre de poche, c'est assez incroyable de voir à quel point c'est un succès qui ne se démord pas. Puis en plus, un livre de poche, c'est le bon nom, quoi. C'est que souvent, tu voyages ou n'importe quoi, c'est vrai que tu te mets ça au fond de la poche et c'est vraiment... Et alors, année après année, c'est incroyable le nombre de livres qui peuvent être vendus chaque jour durant. Par exemple, là, je suis tombée sur un papier qui s'intitule « Best-seller, les livres de poche les plus vendus en 2020 ». On nous en cite une dizaine. Bon, Guillaume Musso, qui est sûrement l'écrivain le plus lu en France, arrive en tête avec « La vie secrète des écrivains », un livre dont on avait parlé ici. Il s'en est vendu presque 500 000 exemplaires. C'est fou, ça a rapporté quasiment 4 millions d'euros. Donc, il y a ceux qui se vendent dans l'édition originale et en livre de poche. C'est fou, hein. Il y a aussi Mélissa D'Acosta, « Tout le bleu du ciel », un livre dont j'avais entendu parler beaucoup en bien, mais malheureusement, il n'a pas été enregistré. Lui, il s'est vendu à 256 000 exemplaires. Il y a aussi le livre de Aurélie Valogne qui s'intitule « La cerise sur le gâteau ». Ça, je vais vous en faire entendre un extrait un petit peu plus tard. J'ai aussi un livre de Michel Bussy qui est un auteur également très, très lu, un petit peu comme Musso ou comme Lévy en Europe. Le livre s'appelle « J'ai dû rêver trop fort ». Il y a M, Le bord de l'abîme de Bernard Minier, Marc Lévy dont je parlais, avec « Ghost in Love », un roman. Ensuite viennent Virginie Grimaldi, Quand nos souvenirs viendront danser, ça aussi j'en ai un extrait pour vous. Le signal de Maxime Chattam, dont je vous avais parlé d'ailleurs à cette émission, des livres pleins les oreilles. Une évidence d'Agnès Martin-Lugan, ça j'aurais bien aimé pouvoir mettre la main sur le livre audio. Malheureusement, il n'existe pas. Et enfin, Lucas de Franck Tilliez, qui s'est vendu chez Pocket à presque 165 000 exemplaires. Si on combine tout ça, là, ça représente 11 millions d'euros. Rien que pour ces livres-là, en chiffre d'affaires, c'est quelque chose. Bon, bah, vous rajoutez à peu près 4 ou 5 millions pour savoir en dollars à quoi ça correspond. Alors, j'ai donc pour vous, je vous le disais, notamment la cerise sur le gâteau. Ça a été fait par Audiolib. Et c'est lu par Patrick Borg et c'est sorti en octobre 2019. La vie est mal faite, nous dit-on dans la description. À 35 ans, on a le temps de rien. À 65, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire. Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du bonheur, jusqu'au drame, la retraite de son mari.
Viens, on va boire un bol de chocolat chaud. Et je vais te préparer une tartine spéciale. Ta préférée, continua-t-elle. La spéciale, c'est la tartine double, avec le beurre et la confiture partout, partout, même dans les trous, questionna Charlotte subitement très intéressée. « Oui, confirma Brigitte, avec la confiture que l'on a faite ensemble l'année dernière. »« D'accord, je veux bien. Mais il est où, papy ?» interrogea Charlotte en scrutant chaque coin de la maison. « Tu sais bien, il est au travail, » rappela la grand-mère. « Encore ? Il est jamais là !» remarqua la fillette, ce à quoi Brigitte se retint d'ajouter « À qui le dis-tu ?» Avec un sourire fripon, la grand-mère chuchota « « Oui, mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent.
» Un autre livre qui s'est très très bien vendu en livre de poche en 2020 et qui existe en audio, « Quand nos souvenirs viendront danser » de Virginia Grimaldi. Là, j'ai pour vous un petit extrait parce que c'est un petit extrait que je vais vous lire parce que c'est peut-être ce qui résume le mieux ce bouquin. Lorsque nous avons emménagé un passe des Colibris, nous avions 20 ans, ça sentait la peinture fraîche et les projets. Nous nous prêtions main forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirs sont accrochés au mur et nous ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que 6, Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse, nos maisons, nos mémoires, nos vies, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis. Voici un souvenir, parce que c'est justement de cela dont il est question. Quand nos souvenirs viendront danser, de Virginia Grimaldi, on la retrouve avec son Anatole quand elle était jeune.
1955. J'ai 20 ans. Anatole porte les deux valises qui renferment notre vie. Il est pressé. Je suis anxieuse. Jusqu'ici, nous vivions chez sa mère, qui se faisait un devoir de laisser notre intimité à l'extérieur. Chaque matin, Geneviève grattait à la porte de notre chambre pour me prévenir qu'il était l'heure de se mettre au fourneau. Guidée par ses conseils, je préparais le petit déjeuner de son fils, puis le déjeuner qu'il emporterait au bureau. Chaque soir, lorsque mon mari rentrait, j'étais plus aguerrie que la veille en matière de couture, cuisine ou nettoyage de l'argenterie. Ma sœur Lucie s'est souvent étonnée de me voir accepter cette présence maternelle. Jamais je n'ai pu lui avouer que cela me rassurait. La perspective de vivre seule avec Anatole me terrifie. Des gouttes de sueur perlent sur son front. Nous marchons depuis 10 bonnes minutes. L'arrêt de bus m'avait semblé plus proche la dernière fois, soupire-t-il. Veux-tu que je prenne une valise ? Tu n'y penses pas, ma chérie. Je n'ai encore jamais vu la maison dans laquelle nous nous apprêtons à emménager. Anatole n'a pas eu le temps de la réflexion. Les acheteurs potentiels étaient plus nombreux que les logements disponibles. Il a signé immédiatement après la visite et annoncé la nouvelle le soir même au dîner. Sa mère s'est enquise de la taille de la cuisine.
Voilà, c'est une production audio libre. C'est sorti en 2020. La voix que vous entendiez était celle de Colette Saudoyer dans le livre de Virginia Grimaldi, « Quand nos souvenirs viendront danser ». Il me reste quelques minutes pour vous parler du Festival du livre audio et du podcast. Du podcast, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une jeune femme qui nous en parle un peu mieux. Elle s'appelle Justine Souk et elle nous raconte que cette année, le Festival du livre audio va partager l'affiche avec un autre invité très populaire. Le podcast, ça va se passer au printemps à Strasbourg. L'audio sera inclusif et créatif, comme le confirme Céline Paluzinski, qui est l'une des organisatrices de l'événement et qui est aussi présidente de la Plume de Pan, qui œuvre depuis plus de 10 ans pour la démocratisation du livre audio. À l'occasion de cet événement qui va se tenir du 16 au 22 mai 2021, il va y avoir des tables rondes, des coups de cœur, un partenariat spécial podcast avec Lire, le magazine littéraire. Et il s'avère que le Québec qui sera présent si... Bon, voilà, point de suspension. Il faut dire que bonus de cette édition 2021, qui renforce les liens entre le livre audio et podcast, un partenariat avec Lire, donc je vous le disais, le magazine littéraire, va donner lieu à des chroniques de livres audio. Et ça, ce sera une première pour la France. Alors j'ai vite rappelé à madame Cécile Paluzinski, qu'il existait ici, cette émission-là. Et il en sera certainement question au festival. J'ai pour vous un extrait de « Un monde à portée de main » de Maëlys de Kerangal et lu par l'auteur, parce qu'il en sera question dans ses premières chroniques de livres audio dont je viens de vous parler.
Puis elle déplie encore, raconte sa stupéfaction de voir débarquer dans la soirée une poignée d'étudiants, des élèves des Beaux-Arts que le chef d'écho avait embauchés en renfort, des volontaires talentueux et dans la dèche, certes, mais bien partis pour tout saloper. Du coup, cette nuit-là, c'est elle qui avait préparé leur palette, agenouillée sur le sol plastifié, procédant à la lumière d'une lampe d'iPhone que l'un d'entre eux dirigeait sur les tubes de couleurs qu'elle mélangeait en proportion, après quoi elle avait assigné à chacun une parcelle du décor et montré quel rendu obtenir, allant de l'un à l'autre pour affiner une touche, creuser une ombre, glacer un blanc. Ses déplacements à la fois précis et furtifs, comme si son corps galvanisé la portait d'instinct vers celui ou celle qui hésitait, qui dérivait, de sorte que vers minuit chacun était à son poste et peignait en silence, concentré. L'atmosphère du plateau était aussi tendue qu'un trampoline, ferlé, irréel, les visages mouvants éclairés par les chandelles, les regards miroitants, les prunelles d'un noir de Mars. On entendait seulement le frottement des pinceaux sur les panneaux de bois, les chuintements des semelles sur la bâche qui recouvrait le sol, les souffles de toutes sortes, y compris celui d'un chien torpide roulé en boule au milieu du bordel, un éclat de voix jailli d'on ne savait où, une exclamation « Putain, regarde, regarde-moi ça comme c'est beau !»
Et comme c'est beau cette écriture de Maëlys de Kerangal, dont on vient d'entendre un extrait du livre « Un monde à portée de main », lu d'ailleurs par elle-même, c'est chez Gallimard Écoutez Lire qu'on a produit ce livre-là il y a maintenant 2 ans. Et c'est ce livre ainsi qu'à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, un petit jeune qui débute, lu par Daniel Lemesguiche. Ce sont ces deux livres-là qui vont donner lieu à cette chronique dont je vous parlais, la première chronique faite en France au sujet des livres audio. Ça va s'appeler « La voix des pages ». Voilà, et tout ça, ça sera à l'occasion du festival dont je vous parlais à Strasbourg, le festival du livre audio et du podcast. Ainsi s'achève cette émission des Livres pleins les oreilles. Je voudrais remercier mon camarade Jean-Sébastien Laliberté de m'avoir appuyé dans la mise en onde de cette émission et remercier aussi Maxime Martin, Max, à qui on doit le livre Excessif qui existe maintenant dans le catalogue livreaudio.vusetvoix.com. Je vais vous souhaiter une belle semaine de lecture. Moi, je retourne préparer ce qui sera la semaine prochaine la 200e de l'émission. Et pour l'occasion, je vais vous sortir des petits montages, des extraits d'entrevues que j'ai archivés depuis 5 ans maintenant. Et ça va être bien agréable. Allez, bonne semaine. Salut les amis.